C'est fou à quel point que les histoires de cartes de crédit comme ça qu'on est obligé de suspendre pour des questions de fraude, ça fait réagir un tas de témoignages. On nous indique, entre autres, que on est tellement rendu habitué. Tu vas sur un site où tu commandes une fois de temps en temps. Autorisez-vous qu'on conserve vos informations de crédit. Tu dis oui, mais si eux autres se font frauder, tu te retrouves avec tes informations entre les mains d'un tiers qui risque des utiliser. Sur le texto, quelqu'un nous mentionne, on est en train de magasiner des chambres d'hôtel pour notre voyage, puis comme on a une inquiétude de fraude, il a fallu faire suspendre la carte, on ne peut pas s'en servir pendant 10 jours, fait que tant pis pour le magasinage. Des erreurs aussi qui font qu'à un moment donné, tu as tellement de facturations qui sont accumulées, qui sont comme problématiques, que là, tu as l'impression qu'il y a un problème avec ta carte, tu es obligé de la suspendre aussi, fait que Max...
OK, bien, je pourrais vous dire la vérité. Je sais comment c'est arrivé. J'ai reçu un appel, puis là, c'était mon petit-fils qui paniquait. Puis là, j'ai donné mes informations, puis c'est après que je me suis rendu compte. Ouais, j'ai pas de petit-fils, moi. Puis là, il était trop tard.
Max, je t'aime, mais t'es cave. Pendant qu'on écoutait Linkin Park, Sam Tremblay-Michaud, notre chroniqueur automobile, est venu s'installer en studio avec nous autres. Salut, Sam, ça va?
Allô, oui, ça va
toi
bien.
Toi aussi, t'as des histoires de cartes de crédit en voyage?
C'est la semaine passée, la chambre d'hôtel où est-ce que j'étais a fait une erreur de je sais pas quoi. Là, dans mon anglais cassé, j'ai essayé de comprendre quelque chose, mais ils m'ont chargé 2000 US sur ma carte.
Oh, wow.
Puis il faut savoir que j'ai pas une grosse carte de crédit. Tu sais, il y a des gens qui ont des cartes de crédit plus costaudes, ouais. Mais j'ai comme 3000 ma carte de crédit. Fait qu'elle était pleine avec la conversion et compagnie. Ça a fait mal. Donc, tu te ramasses ailleurs avec...
Avec pas d'argent.
Puis en plus, je me suis fait comme voler pendant une journée mon sel. Fait que là, j'avais pas de téléphone cellulaire et pas d'argent. C'était un moment où est-ce que je me sentais seul au monde.
Vulnérable.
Oui, très vulnérable.
D'ailleurs, t'étais en voyage du côté de Chicago. T'étais au salon de l'auto de Chicago. C'est pas un salon duquel j'ai déjà entendu beaucoup parler. C'est un gros salon, ça a l'air de quoi, ça?
C'est pas un gros salon. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a à Montréal, par exemple, en termes de grandeur, ou même à Québec maintenant. C'est un petit peu plus gros parce que c'est toujours des gros centres de convention, donc il y a plus de véhicules. Mais c'est pas un salon qui est habituellement très connu pour faire des lancements ou des choses extraordinaires. Sauf que là, il y avait des annonces assez intéressantes de Subaru. Puis c'est pour ça que j'étais content d'aller à ce salon-là, parce que Subaru, c'est une compagnie qu'on achète beaucoup ici au Québec. Oui. Et là, on parle d'hybridation chez Subaru, donc quelque chose qu'on aime aussi entendre de plus en plus. Subaru a quand même fait des véhicules hybrides. On a eu la Crosstrek hybride branchable, même la Crosstrek de première génération qui était aussi en format hybride. Des mécaniques qui étaient vraiment mollo. Je vais y aller comme ça, là. Pas rien d'impressionnant au niveau de la puissance. C'était plutôt coûteux en réparation. C'était pas nécessairement très fiable non plus. Fait que Subaru n'a pas une historique extrêmement reluisante dans l'univers de l'hybridation.
Même dans l'électrique, ils ont la Solterra, je pense que c'est pas mal le seul modèle.
Et oui, et qui est faite en collaboration conjointe avec Toyota. Là. Donc, c'est comme le BZ4X chez Toyota. On le fait ensemble, ce véhicule-là. Et d'ailleurs, présentement, puis je fais une parallèle, mais on le vend tellement pas, le Solterra, qu'il y a un collègue journaliste torontois qui a fait une bonne blague, qui l'a appelé le Unsolterra. Et ça m'a fait plutôt rire, honnêtement. Il a dit ça au PR de Subaru. J'ai trouvé ça très courageux. Mais honnêtement, pour ceux qui regardent pour un véhicule électrique, actuellement, on donne 10 000 $ de rabais sur les Solterra et un financement à 0,5 % sur 84 mois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça dans l'industrie automobile. Là. Fait que, quand on parle que les subventions sont parties, mais que les constructeurs vont compenser à quelque part, là, ça, c'est un exemple concret, justement, de produits qui vont vivre ça.
Fait que, qu'est-ce qu'il y avait à présenter à ce moment-là? C'était vraiment de nouveaux modèles qui vont entrer sur le marché?
Subaru Forester e-Boxer Hybrid, avec un nom long, et la Subaru Crosstrek e-Boxer Hybrid. Deux véhicules qui ont exactement la même mécanique, mais deux formats différents. Le Forester est un VUS compact. La Subaru Crosstrek est un sous-compact, donc un petit peu plus petit. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une mécanique maison, mais qui a été travaillée un petit peu avec Toyota également. On voit que l'association entre les deux constructeurs est très présente. Donc, on utilise la nouvelle batterie de nouvelle génération des produits hybrides Toyota, mais on a conservé le fameux système intégral de Subaru, la patente qui fait en sorte que souvent les gens achètent des Subaru. On utilise encore les bons vieux driving shafts pour faire fonctionner le système 4 roues motrices. Donc, il n'y a pas de moteur électrique à l'arrière comme on voit dans les véhicules hybrides. Puis bref, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a voulu conserver cette essence-là, justement, de capacité hivernale, tout en amenant une mécanique hybride qui devrait améliorer la consommation de carburant. Je dis de vrai, j'étais au salon de l'auto, je ne l'ai pas testé. Et Subaru n'avait aucune donnée à ce niveau-là.
Oh, c'est un modèle qui va être disponible cette année ou l'année
printemps
prochaine?
Printemps pour le Forester, on va l'avoir dans les prochains mois. Et la Crosstrek à l'automne 2025. Donc, on va l'avoir comme modèle 2026, mais très prochainement aussi. C'est des modèles modèles aussi qui connaissent déjà une bonne popularité ici, là, donc on en voit sur les routes. Donc je me disais, en version hybride, on va en avoir plus. Mais la stratégie de Subaru, c'est de les avoir mis dans les versions les plus dispendieuses du lot. Donc ça va être les deux versions les plus coûteuses des deux modèles.
Fait que ça roulera pas beaucoup au Québec.
Ben, je trouve ça drôle. je trouve ça drôle. Pis,
alors qu'on est un bon marché pour Subaru avec les
ventes. Absolument. Oui. Puis, tu sais, ça aurait été quoi d'amener une version peut-être un peu plus d'entrée de gamme d'un des deux? On sait qu'aux États-Unis, il va y avoir 4 versions du Forester e-Hybrid. Ce que nous, on n'a pas ici, on en a seulement une et la plus coûteuse. Là, ce que j'ai compris entre les branches, mais sans aucune confirmation, c'est que les patentes de construction, ça commence à être compliqué. Où est-ce qu'on l'assemble, ce VUS-là?
Bon, je voulais qu'on en parle parce que c'est la première fois que tu es à un salon depuis que Trump a été assermenté. On sait qu'il y a toute cette histoire-là de dynamique de rapatrier les assemblages du côté des États-Unis, sinon vous allez payer le prix. Il y a aussi le volet que l'électrique est moins dans la mire de Trump. Ça, est-ce que tu en entends parler là-bas? Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà une incidence ou on est encore très prudent puis on attend de voir où ça s'en va concrètement?
C'est assurément déjà en branle tout ce qui est de la production des véhicules. Ça, c'est clair et net, du moins pour le Canada. Je vous dirais que pour l'instant, les constructeurs sont encore très silencieux, mais on comprend beaucoup de choses quand même. Et l'exemple que je viens de vous parler avec le Forester e-Boxer Hybrid est exactement un exemple concret. Il faut savoir que la Subaru Forester a été construite toute sa vie au Japon. Celle qu'on a conduite ici venait du Japon également, jusqu'à la 6e génération qui a été lancée l'année dernière, qui est construite dans l'usine de l'Indiana aux États-Unis. Donc là, vous me voyez venir, la version hybride va être aussi assemblée là. D'ailleurs, on avait annoncé le tout lorsqu'on a amené la 6e génération. Mais là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'on a juste une version au Canada qui est la plus coûteuse. Fait que pourquoi les 4 autres versions qui sont produites aux États-Unis ne sont pas ici? C'est parce que la mécanique qu'on offre, elle est exclusive à l'Amérique du Nord. Et donc, les usines au Japon ne sont pas équipées pour la produire autant que ça, la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va la produire au Japon. On va l'importer au Canada. Donc, il reste d'avoir une différence entre les VUS Forester qui vont rouler sur les routes aux États-Unis et au Canada.
Ouais.
Et nous, vu qu'on a mis la version la plus dispendieuse, on va avoir moins d'unités, donc l'usine japonaise va être capable de fournir.
Parce que vu qu'on est un petit marché, en plus de ça, ça ne vaut pas la peine qu'ils refassent toute leur manière de faire.
Oui et non, je pense que juste au coût, si jamais il y a des tarifs qui embarquent, le prix de vente du véhicule, même si on l'a dans 4 versions qui sont moins dispendieuses, va quand même exploser pareil. Donc, pour protéger une production puis s'assurer d'être capable d'en livrer suffisamment dans les concessionnaires, on a usé de stratégies comme ça. Donc, voyez-vous, on paye déjà un impact de cette espèce d'incertitude-là qui plane dans l'automobile. Et clairement, on va voir plusieurs autres choses comme ça dans les prochaines semaines.
On parle des États-Unis. Comment vont les ventes Tesla?
Ça va mal, quand même. Puis on peut être heureux ou pas si on est des fans de l'électrique ou non, mais Tesla a connu vraiment un mois de janvier très difficile à travers le monde.
C'est un impact direct de la présence de Elon Musk à proximité de Trump, ou c'est vraiment c'est un add-on, puis il y a toujours une baisse à ce moment-ci dans l'année, puis que là, on en fait des gros titres parce que ça fit avec le narratif?
Il y a vraiment une baisse marquée. J'aurais envie de vous dire, il n'y a pas de lien parce qu'on a juste enlevé des subventions un peu partout dans le monde, comme en France, par exemple. On sait qu'il y a des subventions comme nous ici qui ont tombé au niveau de l'achat de véhicules électriques. Donc, ça a commencé en fin 2024-2025 en France. J'aurais voulu vous dire que c'est ça le problème, mais les chiffres sont majeurs en termes de dépréciation de vente quand on calcule les mois et les mois différents. En Allemagne, c'est 59% de moins de ventes, 63% en France, 12% au Royaume-Uni. En Californie, on est à 12% également. Ce qu'on voit, c'est que l'ensemble de la production de Tesla se vend extrêmement moins bien. L'Allemagne, c'est surtout celle-là qui choque parce que c'est vraiment un pays qui est très fervent de véhicules électriques. Mm-hmm. Les infrastructures sont de mieux en mieux développées également dans le pays. Donc, de voir une chute aussi drastique des ventes dans le dernier mois, ça prouve clairement qu'il y a un ralentissement. Maintenant, est-ce que c'est un amalgame de choses? Assurément.
Mais là, tu sais, les autres constructeurs offrent déjà plus de variété qu'à l'époque où on avait juste Tesla.
Mais
en partant.
C'est drôle. Parce que dans les dernières semaines, tu vois beaucoup sur les réseaux sociaux un collant.
Le fameux sticker, là, ouais.
J'ai acheté ma Tesla avant qu'Elon Musk vire fou.
Oui, ça, on voit ça de plus en plus, effectivement. Puis c'est clair qu'on ne peut pas dire, je pense, si on est lucide et pas en train de faire de la théorie du complot tous ensemble ici, mais que clairement, il y a un impact dans le consommateur. Ça, c'est clair et net. Sur les actions que le Elon Musk fait. Clairement, il y a des actions sur les ventes de Tesla, mais ça vient s'ajouter aussi effectivement une compétition qui est de mieux en mieux raffinée. Des véhicules aussi qui sont chers. Tu sais, Tesla a annoncé une hausse de prix de 12 000 $ sur la Model 3.
Alors que c'était la version abordable.
Qui est entre guillemets, là, parce que ça, maintenant, ça va donner un véhicule autour de 65 000 $ de base. Donc, ça va commencer à faire beaucoup de sous sans les subventions en plus. À l'inverse, des constructeurs qui appliquent des rabais, eux ont monté les prix. Donc, clairement, ça vient jouer aussi. Mais c'est quand même des chiffres majeurs. Habituellement, on ne voit pas des chiffres aussi flagrants. On peut voir des 4-5 % des 10 % 20 % on fait la manchette. 59 % de diminution de vente dans un pays, là, c'est énorme pour un mois. Là, vraiment.
On parlait du Model 3 qui, à une certaine époque, était l'entrée de gamme carrément pour Tesla. Puis tu nous reviens beaucoup avec ça, avec des modèles pas chers. Il y en a de moins en moins sur le marché. Tu as essayé un nouveau modèle que Kia va amener ici, la K4.
Oui, c'est pas facile à dire. Hein.
Kia
même La Kia K4. Puis si on l'a dit en anglais, c'est K4. C'est pas nécessairement mieux. Kia K4.
C'est beaucoup mieux.
Oui, peut-être. Là, mais en tout cas, K4, c'est pas facile, honnêtement. Là, mais c'est un drôle de nom. Faut l'avoir un peu comme la remplaçante de la Forte, que nous, on connaissait ici puis qu'on aimait beaucoup au Québec. C'est une nouvelle voiture qui est disponible dès là. Modèle berline. C'est une voiture compacte. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est que justement, j'ai essayé une version d'entrée de gamme de ce véhicule-là. Dans le fond, il y a deux versions. On a la version LX qui ouvre le bal, puis la version EX. La différence entre les deux, c'est minime, là, à peu près 1500 $ entre les deux. Donc, on peut dire que c'est les deux variantes d'entrée de gamme. Puis j'aime ça en parler de ces véhicules-là parce que justement, quand on voit le coût de la vie, les certitudes qui planent également, des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Faut changer de véhicule, on n'a pas le choix. C'est pas que ça nous tente nécessairement, mais qu'il existe des options pour le faire. Puis celle-là, c'est une motadienne de bonne option qui existe dans l'univers automobile actuellement.
Visuellement, elle fait beaucoup penser à la Elantra, je trouve, de Hyundai.
Absolument, parce qu'il faut savoir que ce sont deux cousines jumelles. Là, donc, on construit les véhicules dans les mêmes usines. C'est le même acier qu'on utilise aussi. C'est les mêmes moteurs qu'on va offrir également. On n'a simplement pas de variante hybride dans la K4, ce qu'on a du côté de Hyundai avec l'Elantra. Mais c'est un véhicule qui, somme toute, et la version d'essai que j'ai essayé en vert cactus avec les options, est aux alentours de 29 000 $ incluant les frais de transport et préparation. Donc, on est sous les 30 000 $ pour la version de milieu de gamme, entre guillemets, qui arrive avec le chargeur à induction, l'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. On a de l'équipement suffisamment là-dedans pour nous contenter, mais surtout une mécanique qu'on connaît très bien.
C'est qui est stable.
C'est les mêmes moteurs qui étaient dans la Forte qu'on a reconduit dans la K4. Donc, on connaît très bien son moteur 4 cylindres 2 litres. Transmission CVT qui a fait ses preuves également. Une garantie de 5 ans, 100 000 km. J'ai fait Montréal-Québec aller-retour avec le véhicule. Puis, tu sais, j'ai le pied pesant, là, je ne vous cacherai pas, mais j'ai fait aux alentours de 6,8 litres aux 100 km avec ce véhicule-là, ce que je trouve tout à fait raisonnable. J'ai de l'espace suffisamment à l'intérieur. Donc, bref, j'ai trouvé que l'ensemble de l'œuvre, quand on regarde le marché actuellement de l'automobile, les coûts que les voitures sont rendus, il existe encore des petites pépites comme celle-là. Puis il faut le dire. Faut le dire, ça.
Puis, me semble que dans les dernières années, on a boudé beaucoup la berline. Ouais. Comme si ça appartenait à une génération plus vieille que la nôtre. Puis nous autres, tout ce que ça nous prenait, c'était des petits SUV qui sont souvent faits sur le même châssis qu'une berline. Est-ce qu'on est en train de ramener une portion séduction avec des prix comme ceux-là puis justement des modèles qui sont redessinés?
Make the Berlin great again. Je suis
wow. La casquette!
Non, mais je vais en faire une s'il faut, là, mais je trouve tellement que la conduite de ces voitures-là également sont plus relevées, malgré que c'est pas une voiture sportive. Ça reste qu'on n'a pas la hauteur d'un VUS justement à compenser quand on a une courbe à prendre. Donc, ça reste confortable. Oui, on est assis plus bas, mais être assis plus bas, c'est aussi très confortable lorsqu'on est sur la grande route. On se sent moins brassé dans le véhicule. C'est une voiture qui, honnêtement, pour le rapport qualité-prix, l'historique qu'on a, me fait juste dire, on devrait de plus en plus dire, délaissons un petit peu les VUS. On n'en a pas vraiment besoin. J'ai fait Montréal-Québec en tempête avec le véhicule sur des pneus de bonne qualité.
Ça a bien été, même si tu n'avais pas une traction intégrale.
Ça a été super bien, là. J'ai pas eu de problème.
Il y a quand même, il faut dire, de l'espace dans ces véhicules-là aussi. Des fois, les gens ont peur de ça. Oui, mais la petite famille, le ci, le ça.
Comme si on partait à Cape Cod toutes les fins de semaine.
Ouais, j'allais jouer au V-Golf, là, pas loin d'ici, avec deux sacs de golf dans l'auto en arrière. Mes amis, il y avait de la place en masse.
Ouais.
Je vous le dis, là, comme rapport qualité-prix, si actuellement vous êtes en train de regarder quelque chose dans ce genre de budget-là, c'est vraiment une option à considérer. C'est un véhicule que j'ai trouvé bien, bien ficelé et qui doit être sur votre liste niveau budget à 29 000 $ incluant les frais de transport et préparation. La Kia K4 est un choix intéressant.
On te pose la question à savoir, est-ce qu'ils vont la faire en modèle hatchback?
Je rêve. On l'a vu en plus quand ils l'ont présenté, une version hatchback qui est magnifique.
Il me semble que c'est souvent ça le compromis. On va y aller pour la version hatchback puis on a l'impression d'être un peu plus sport.
Mais je vais vous dire un peu ce que je pense puis on va s'amuser ensemble. Il existe encore la fameuse Kia Soul chez Kia. Corvette, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas.
Qui a été mon bébé pendant des années et des années.
Qui existe toujours. Petite voiture qui va se vendre aussi sous les 30 000 $ et qui est une version hatchback, dans le fond, si vous voulez, de cette fameuse Coquette. Donc, elle existe toujours. Par contre, on ne s'attend pas à une longue longévité encore de ce véhicule-là, dans le sens qu'on sait qu'elle va mourir bientôt. Et j'imagine qu'à la fin de la Soul, on pourrait peut-être voir arriver cette Coquette berline-là. Donc, si vous êtes à la recherche actuellement d'une version hatchback, allez vers la Soul. Ou sinon, là, je parle juste de si vous magasinez dans l'univers Kia, bien sûr. Là, il y a d'autres produits également. Là, mais dans cet univers-là, la familiale devrait venir un jour. Et honnêtement, je nous le souhaite. Elle est si belle. Allez voir ça sur Internet. Ça vaut la peine.
Christian dit « Salut Sam, je suis propriétaire d'une Mazda 6 2018 Turbo que j'adore. J'ai vu la future version sortie en Chine. Je capote tellement qu'elle est belle. Penses-tu que c'est le genre de modèle qui va être disponible en Amérique du Nord, selon toi? »
J'en doute fortement, Christian. Je suis désolé d'annoncer des mauvaises nouvelles demain parce que moi aussi, je l'aime. Mais, les Américains contrôlent vraiment le flux de voitures qu'on va avoir. Le CX-50, le nouveau VUS qu'on a importé, qui est fait aux États-Unis, qui est construit là-bas, va prendre de plus en plus de place. La version renouvelée du CX-5 devrait arriver aussi. Les VUS se vendent très bien chez Mazda actuellement. On a sorti le CX-70 aussi, donc je pense pas malheureusement qu'on va revoir de sitôt une berline dans l'alignement, mais je me le souhaite. Je nous le souhaite à tous.
Deux questions par Twitch. La première, c'est Frank qui dit, il va arriver quoi avec la valeur future si j'achète un véhicule Nissan ou Infiniti avec la transaction avortée avec Honda?
Ça veut pas dire grand-chose pour l'instant parce qu'il y a pas eu de transaction justement, donc il y a pas eu d'alliance
pas
qui
moi.
S'est fait. Donc pour l'instant, absolument rien. Nissan n'est pas mort non plus. Hein. Nissan a juste dit, nous, on débarque de la table de négociation. Ça veut pas dire qu'on ne va pas apprendre d'autres choses avec le constructeur. La valeur des véhicules, après ça, bien, c'est votre voiture actuellement sur le marché, donc sa valeur va rouler selon ce qu'elle produit. Vous avez acheté un véhicule avec des problématiques connues comme Nissan, des problèmes de CVT dans les anciens modèles, bien, ça se peut que la valeur soit moins élevée, mais il n'y a rien
ça
de relié
avec, la
avec l'association Honda actuellement.
Et dernière question, qui a EV9, est-ce que ça vaut la peine ou...
Ça vaudrait? C'est dur de venir de vacances.
Recalcul en cours.
Recalcul en cours. Est-ce que ça vaut la peine ou pas?
Absolument. Beau VUS, 7 passagers, 5000 livres de remorquage électrique. Les gens qui en ont sont très satisfaits. Pas le véhicule le plus raffiné, je trouve, à l'intérieur. Là, un peu de plastique rigide ici et là. Le prix, c'est encore assez élevé aussi. Mais quand même, pour quelqu'un qui cherche de l'électrique, 7 passagers, actuellement, il n'y a pas grand-chose d'autre à part ça. Donc oui, ça vaut la peine. Là, j'irai avec ça.
Samuel Tremblay-Michaud, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On peut te trouver sur Facebook. D'ailleurs, Samuel Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile, as-tu encore le temps de répondre?
Absolument. J'ai des délais, de Stacy, j'ai perdu un peu le contrôle. Mais je
il a perdu son téléphone à un moment donné, il a pris du retard.
Les avions, c'est compliqué, là, mais je vous le jure, okay, je réponds à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre.
Mais ta passion est vraiment contagieuse. Vous écoutez Gravel dans le retour. On vous accompagne jusqu'à 18h. Il y a quoi que ce soit. Vous voulez intervenir, vous avez des mentions à nous faire de ce qui se passe sur la route. Vous n'hésitez pas sur le texto 418-971-1021. Puis d'ailleurs, là, on doit être à l'aube de l'heure de pointe.
Oui, bien écoute, ça commence à ralentir à certains endroits. Peut-être vous dire que Laurentienne-Sud, début d'accès depuis rue Bouvier, là, c'est encore entravé. Le véhicule lourd qui est en panne depuis à peu près une heure et quart. Vous dire également que sur Charest, direction ouest, début de la voie de desserte, c'est partiellement entravé. Une panne de ce côté-là aussi. Capitale, direction est, ça commence à ralentir à la hauteur de Robert Bourassa, ouest à la hauteur de Laurentienne. Et l'entrée des ponts, direction sud, là, surtout à partir d'Henri IV, je vous dirais que c'est difficile au moment où on se parle, évidemment, quoi que ce soit d'autre. 88 971 1021 par texto.
Merci, Audrey. Pour joindre l'équipe